Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir, dans le débat du Club des Idées, on s'intéresse à la SNCF. On connaît tous cette petite musique. Eh bien, on va se poser la question de comment sauver l'un de nos joyaux du patrimoine national. L'entreprise ferroviaire, vieille de près d'un siècle, est au bord du gouffre. Son patron anticipe ainsi une perte record pour cette année de 5 milliards d'euros. Un plan social d'ampleur est redouté. Et ça n'est pas tout, car le groupe va devoir bientôt affronter des concurrents sur le réseau français. Alors la SNCF va-t-elle devoir se réinventer? Peut-elle tout simplement faire faillite? On en parle donc ce soir avec nos invités. Arnaud Aimé, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste associé chez SIA Partners, spécialiste des transports. On en parle également avec Gilles Dansard. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes expert du ferroviaire et directeur de Mobilettres. Et on en parle avec Marnix Dressenwagen. Bonsoir. Vous êtes professeur émérite de sociologie à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Première question, peut-être un peu naïve pour vous, Gilles Dansard. C'est possible, ça, une faillite de la SNCF?
Beaucoup n'y croient pas, parce que c'est une société, comme vous l'avez dit, qui est très vieille. Mais en fait, à l'intérieur de la SNCF, il y a plusieurs SNCF. Et notamment celle qui inquiète, c'est la SNCF du TGV, qui finalement ressemble un peu à la SNCF, à Air France. C'est-à-dire qu'elle n'est pas subventionnée, contrairement à la SNCF des TER ou des trains de banlieue, elle n'est pas subventionnée par les collectivités locales ou par l'État. Donc la SNCF est en risque à 100% sur le TGV. Donc à partir du moment où le trafic est réduit de 80 à 90% selon les moments du confinement, eh bien là, elle est en gros risque parce que pour faire simple, le coût de toutes les rames TGV est extrêmement élevé. Je ne parle même pas de l'infrastructure, hein, qui a coûté très cher à la collectivité publique, mais le coût des rames, à partir du moment où elles ne rapportent plus de recettes ou quasiment plus, eh bien, c'est un gouffre pour la SNCF.
Alors, l'effet de la crise du Covid, il est exponentiel, évidemment, puisque les différents confinements ont eu un impact désastreux sur l'activité. Trafic réduit de 15 000 à 3 500 trains par jour. On est passé de 5 millions de voyageurs par jour à 150 000 en mars, idem en novembre avec le second confinement, seuls 30% des TGV en circulation et idem avec les intercités qui ont été réduits à un ou deux allers-retours sur chaque ligne. Conséquence, Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF, dit ceci.
Tension économique reste forte. Juste avant l'annonce du second confinement, donc en octobre, fin octobre de cette année, nous étions déjà à 5 milliards d'euros de pertes de décalage par rapport au chiffre d'affaires attendu. Et on le sait bien, la situation va encore se dégrader avec le confinement numéro 2 et la réduction du trafic à craindre pour la fin de l'année.
Bissal, cette année attendue de 5 milliards d'euros contre 6 milliards de marge l'an dernier. Même question Arnaud Aimé. Jusqu'à présent, l'État couvre les pertes et la dette, mais est-ce que c'est tenable à long terme?
Alors non, déjà non, l'État ne couvre pas les pertes et la dette. La SNCF, ce n'est pas exactement l'État. La SNCF
non, mais il y a un plan de un peu plus de 4 milliards qui a été inclus dans le plan de relance.
Oui,
et on a racheté 35 milliards d'euros de dette à la SNCF il y a moins d'un
an. Alors la SNCF, depuis qu'elle a été créée en 1936, elle a hérité aussi de toutes les dettes du réseau ferré qui existe depuis le 19e siècle, qui n'ont pas été prises en charge par l'État au moment de la construction du réseau ferré. Donc les comptes de la SNCF sont distincts de ceux de l'État. Et effectivement, il y a deux ans, a été décidé que l'État reprendrait une partie de la dette de la SNCF, qui était une dette héritée en partie du 19e siècle. Cela dit, aujourd'hui, cette dette, elle augmente très rapidement à cause de la crise sanitaire. Elle avait déjà commencé à augmenter avec la grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites, donc qui n'est pas un problème spécifique SNCF. Aujourd'hui, le problème de la SNCF, c'est comme il y a beaucoup de coûts fixes, vous dites qu'il n'y a que 30% des TGV qui circulent. Les 70% qui ne circulent pas, il faut quand même payer la location, entre guillemets, du matériel roulant. Il faut payer les conducteurs. Et puis les trains qui circulent,
donc
s'ils sont à moitié vides...
Donc même un TGV à l'arrêt, ça coûte de l'argent.
Évidemment, on a payé tout l'investissement. Une rame de TGV, ça coûte entre 20 et 30 millions d'euros. Et les conducteurs, on ne les licencie pas.
Marnix Dressenwagen, sur le constat d'abord de la SNCF.
Donc... je pense que ce qui est important de dire quand même, c'est que quand la SNCF s'endette auprès des banques, et elle est endettée auprès des banques, elle emprunte à des taux qui sont les mêmes que ceux de l'État. C'est-à-dire qu'il y a une confiance absolue du système financier dans la solvabilité de la SNCF
à terme. Donc les actifs de la SNCF, c'est du solide, c'est ce que pensent les investisseurs.
Voilà, c'est du très solide, aussi solide que l'État français qui, comme on le sait, emprunte à des taux qui sont proches de zéro, voire des taux négatifs à certains moments. Donc la question, à mon avis, ce n'est pas celle de la faillite de la SNCF. La question qui se pose, c'est celle du statut juridique demain de la SNCF. C'est-à-dire, est-ce que ça sera toujours une entreprise publique Aujourd'hui, on sait qu'il y a 5 sociétés anonymes. Oui. Or, il y a des enjeux extrêmement importants derrière cette question. Au moment où du pacte ferroviaire, il y a 2 ans, en 2018, il a été dit qu'il est inscrit dans la loi que l'État est le propriétaire exclusif de ces sociétés anonymes. Rien n'empêche l'État de se débarrasser de telle ou telle de ces sociétés anonymes, notamment de fret SNCF. Alors, on parle beaucoup des voyageurs, mais il faut parler aussi du transport de marchandises.
C'est la crainte des syndicats de cession d'actifs. Alors vous disiez 5 sociétés, c'est vrai que la SNCF est découpée en 5 branches, on va en parler dans quelques secondes, et on va poser toutes les questions que vous avez mises sur la table. Est-ce que la SNCF est suffisamment compétitive? Faut-il revoir les tarifs? C'est vrai que c'est un peu la jungle aujourd'hui. Et puis, un plan social massif, les syndicats le redoutent. Est-ce que c'est possible demain la SNCF 19h27, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h30, la suite du débat du Club des Idées. Et ce soir, on s'intéresse donc à la SNCF. Comment sauver l'un de nos joyaux du patrimoine national, alors que le patron de l'entreprise anticipe une perte record pour cette année de 5 milliards d'euros? Alors, c'est vrai que le gouvernement a dit qu'il allait continuer à investir de façon importante dans la SNCF, mais avec des contreparties. Écoutez Jean-Baptiste Djebbari, le ministre délégué au transport, c'était il y a quelques jours.
Soit on arrête d'investir, et finalement on ne demande que des économies à la SNCF, soit on investit en tant qu'actionnaire avisé, finalement, parce que nous investissons au nom des citoyens français dans la SNCF, et l'effort, je l'ai dit, a été substantiel, et c'est ce que nous allons faire. Nous allons continuer à investir de façon avisée, en demandant à la SNCF de continuer à se réformer, de continuer à investir dans son réseau, de continuer à améliorer la relation aux élus, à ses clients.
Ça veut dire quoi se réformer, Arnaud Aimé? Vous êtes économiste associé chez SIA Partners, spécialiste des transports. Quand le ministre dit qu'il faut que la SNCF se réforme, ça veut dire quoi?
Alors, on pourra parler de ça, et puis aussi de qu'est-ce que ça veut dire qu'aviser. Et je pense que certaines décisions du gouvernement peuvent être contestables là-dessus.
Par exemple, l'État
veut mettre de l'argent sur la table pour raviver le fret ferroviaire. Donc ça se défend par rapport à la transition énergétique et à la désaturation des axes routiers. Il veut aussi raviver les trains de nuit. Donc la question, ça sert à quoi? Et combien on imagine de personnes dans ces trains de nuit?
Alors qu'on nous avait dit il y a quelques années, les trains de nuit, ça n'a pas vocation à perdurer, on les arrête. Je crois qu'il restait une ligne, c'était Paris-Briançon.
Oui, il y avait une deuxième ligne également, mais c'est très marginal. Si on ravive les trains de nuit, c'est pour mettre combien de voyageurs dedans? Parce que si c'est des trains vides aux 3/4 vides, eh bien, c'est même pas écologique, disons.
Donc, ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas de stratégie globale, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que raviver les trains de nuit, alors ça a le mérite de ne pas coûter très cher à raviver. Donc, ça permet une annonce pour pas trop cher. Et c'est pareil pour les petites lignes capillaires, les petites lignes de train. À quoi ça sert de maintenir une infrastructure, un réseau ferré qui coûte à entretenir, si c'est pour faire passer un train de voyageurs par jour et un train à moitié vide?
Alors, comment on réforme la SNCF, Gilles Dansart, expert du ferroviaire et directeur de Mobilettre?
Déjà, en arrêtant de tous ces malentendus. C'est-à-dire les politiques sont toujours sur le reproche de dire à la SNCF « Vous coûtez trop cher, le service n'est pas assez productif. » Et de l'autre côté, la SNCF passe son temps à dire « Oui, mais on est obligé de suivre vos injonctions contradictoires, de faire des trains qui coûtent cher parce qu'il faut s'arrêter dans toutes les arrêts, toutes les gares, etc. » Et vous nous imposez sans cesse des demandes qui sont extrêmement coûteuses. Donc ce dialogue de sourds, il dure depuis 30 ans.
Oui.
D'une certaine façon, ceux qui sont pénalisés par cette absence de stratégie globale, c'est les usagers, mais c'est aussi les Français dans l'ensemble, parce que le fret ferroviaire est à un niveau, par exemple, extrêmement bas, 9% aujourd'hui, alors que, par exemple, en Allemagne, il est plus du double. Donc on voit bien que l'absence de stratégie et ce ping-pong sans cesse entre les élus, les politiques, quel que soit leur bord, et puis la direction de la SNCF et les cheminots dans leur ensemble, ça donne aujourd'hui une situation extrêmement difficile que la crise Covid rend absolument dramatique et évidente, visible en cette période.
Même question, Marnix Dressenwagen, professeur émérite de sociologie. Si vous aviez une baguette magique pour réformer la SNCF et la rendre plus profitable, parce que c'est bien ça quand même la finalité, c'est de la rendre profitable avant l'arrivée massive de la concurrence sur le réseau français.
Est-ce que la finalité, c'est de la rendre profitable?
Aux yeux du gouvernement, en tout cas.
Ou est-ce que la finalité, c'est de la rendre au public et au service du public? Je pense qu'il faudrait changer complètement la philosophie sous-jacente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la SNCF considère que les usagers ou les clients sont au service de la SNCF. Or, il faudrait remettre les choses sur leurs pieds et partir de l'idée que la SNCF doit être au service des usagers. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les trains doivent rouler au moment où les personnes en ont besoin. Ça veut dire éventuellement qu'il faut abandonner la modulation tarifaire, ce que la SNCF, dans son jargon, appelle le yield management.
Oui.
C'est-à-dire on module les tarifs en fonction des segments de clientèle. Et on essaie de faire payer chaque segment de clientèle le plus qu'il est possible de lui soutirer. Résultat, plus personne n'y comprend rien, en particulier sur les TGV, mais pas seulement. Voilà. Et donc, il faut revenir à une philosophie qui était celle d'autrefois, péréquation tarifaire, c'est-à-dire vous payez le même prix au kilomètre, quelle que soit la distance, quel que soit le moment.
Vous me tendez la perche parce que sur les tarifs des billets, c'est vrai qu'il y a une grande étude de 60 millions de consommateurs qui a été réalisée au mois de mars dernier. Mmh. Je voudrais qu'on écoute Benjamin Douriez, qui est celui qui a réalisé cette étude. Voilà ce qu'il dit à propos de ces fameux yield management, ces tarifs qui varient selon les populations visées.
Les clients, ce qui génère le mécontentement, c'est la grande variabilité des tarifs. C'est vrai que c'est pas nouveau, hein. C'est ce qu'on appelle le yield management, la tarification dynamique de la SNCF. Ça fait presque 30 ans que c'est appliqué, mais ça s'améliore pas au fil des années. Nous, avec l'étude qu'on a fait, on a relevé les tarifs de plus de 2800 trains et on a constaté que sur certaines lignes, les tarifs pouvaient varier de 1 à 11. Ça veut dire qu'il y a des prix d'appel à 10 euros, mais que les prix ils peuvent monter en seconde classe jusqu'à 110, 115 euros.
Alors là, on touche du doigt un problème fondamental, Arnaud Aimé, vous êtes économiste de la SNCF. C'est-à-dire que le slogan « on va vous faire aimer le train », pour nous faire aimer le train, il faut qu'il soit moins cher que l'avion. Et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur l'ambition écologique de favoriser le train plutôt que l'avion. Alors le gouvernement, c'est vrai, a dit qu'il allait supprimer les vols courts. S'il y a une alternative ferroviaire avec une durée de moins de 2h30, est-ce que ça peut changer la donne ? Et est-ce que si demain, allez, rêvons un peu, la SNCF avait une politique tarifaire hyper lisible et la même pour tout le monde, est-ce que ça changerait l'attractivité des billets de train ?
Oui, mais en bien ou en mal sur l'attractivité des billets de train, pour nuancer, enfin, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que disait Marnix, c'est-à-dire que si on applique les mêmes tarifs pour tout le monde, ça veut dire que moi, par exemple, qui suis un voyageur d'affaires, eh bien, je ne paierai plus 200 euros un aller-retour Paris-Lyon. Je le paierai moins cher parce que je paye le même prix que tout le monde, alors que mon entreprise, mon employeur, peut me payer un aller-retour. Donc, je trouve qu'en même temps, c'est dommage.
On retombe dans la segmentation.
Oui, mais je trouve que c'est dommage de ne pas faire payer cher ceux qui peuvent payer plus cher.
Voilà. Oui, mais là, sur un même trajet, ça va de 1 à 11, vous rendez compte, de 10 euros à 150 euros.
Je m'en rends très bien compte, puisque moi, en tant que voyageur loisir et voyageur d'affaires, je ne paye pas du tout les mêmes prix. Ce que je vois, c'est que c'est ce que l'aérien applique. Ils arrivent à remplir leurs avions. Et ce que je vois, c'est qu'avant le Covid, la SNCF arrive à remplir à 80% ses TGV. Donc, à un moment, ce qui compte, c'est quand même le résultat. Et le résultat, c'est de pouvoir rentabiliser ses TGV, y compris en proposant des petits prix, parce qu'à l'inverse, il y en a d'autres voyageurs d'affaires qui payent cher.
Alors, pour favoriser le train, même question, Gilles Dansart, comment fait-on pour qu'on ait envie de préférer le train ? Parce que ce n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Moi, il y a beaucoup de gens qui me disent, moi, je préfère prendre ma voiture, parce qu'au bout du bout, ça coûte moins cher si on est 5 dans la voiture.
Il y a deux choses, il y a le prix et le service. Aujourd'hui, la SNCF est persuadée que la polémique sur les prix, elle est entretenue par, en gros, les relais d'opinion. Et que, finalement, il y a pas mal de Français qui profitent de ce qu'on appelle les petits prix et que c'est une fausse polémique. Donc là, il va peut-être falloir qu'elle change aussi de pied là-dessus, parce que les Français considèrent...
On est d'accord.
C'est un sujet, parce que les Français considèrent que le train, c'est un outil du quotidien et que l'avion, ça n'est pas l'outil du quotidien. Donc, alors que la SNCF gère le train comme il gère l'avion, avec ce fameux yield management. Donc là, il y a un premier malentendu. Et puis après, il y a les services. Aujourd'hui, on peut considérer que, on a entendu le président Macron, par exemple, ou le président Farandou dire qu'il fallait que la SNCF s'adresse davantage aux seniors, eh bien, il faut des services à la hauteur.
Oui.
Il faut faciliter les correspondances, il faut faciliter la prise en charge des bagages, etc. Donc c'est toute une révolution du client, au-delà simplement du voyage, qui est à mettre en œuvre pour que les Français retrouvent de façon plus massive le chemin du TGV longue distance, parce que finalement, ça concerne peu de Français tous les jours, le TGV.
Et puis le train du quotidien aussi.
Les trains du quotidien, c'est beaucoup plus de Français concernés.
On va en parler dans quelques secondes, des trains du quotidien. 19h39, vous restez avec nous.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h40, la suite du débat du Club des Idées. Et ce soir, on s'intéresse donc à la SNCF. Comment sauver l'entreprise publique alors qu'elle annonce une perte record pour cette année? C'est du prévisionnel, mais ça semble se confirmer, de 5 milliards d'euros. C'est ce qu'a dit le patron de l'entreprise, Jean-Pierre Farandou. On en parle donc avec nos invités. Question pour vous, Arnaud Aimé, économiste associé chez SIA Partners, spécialiste des transports. Est-ce que la fin du monopole pour l'ouverture de l'ensemble des lignes, train du quotidien, train grande ligne, à la concurrence, est-ce que ça va pénaliser la SNCF ou au contraire, ça peut la renforcer ?
Alors, déjà, la concurrence, c'est une réalité depuis 10 ans sur le fret ferroviaire.
Pour le passager, c'est tout nouveau ?
C'est tout nouveau. Alors, ça existe depuis plusieurs années sur les liaisons internationales. Il y a Trenitalia qui fait circuler des trains de nuit entre Paris et Venise, Milan, etc.
Mais le vrai bouleversement, ça va être pour les trains du quotidien, les intercités.
Alors, les trains du quotidien, c'est les TER ou les trains de banlieue en Île-de-France. Et eux, comme les TGV, sur le domestique, sur la destination nationale, ça va être effectivement libéralisé très prochainement. Après, cette libéralisation, elle va être assez timide, a priori. S'agissant de la libéralisation du TER, il y a juste deux régions qui se lancent dessus, qui sont Grand Est et Sud, ex-PACA. Et encore, ils libéralisent que quelques lignes au sein de ces grandes régions.
Donc, a priori, peu d'impact pour la SNCF.
À très court terme, peu d'impact objectif. Et puis, sur le TGV, les voisins d'Europe du Sud, c'est-à-dire Trenitalia et Renfe, ont aussi des appétits sur la longue distance, aussi en réaction à la SNCF qui s'est développée, qui se développe en Italie et en Espagne. Donc, à court terme, on imagine peu de pertes de marché pour la SNCF. Par contre, ça stimule la SNCF dans l'évolution de ses offres et la qualité de son service.
Gilles Dansard, expert du ferroviaire et directeur de Mobilettre. J'ajouterai peut-être, et vous répondrez, qu'à partir de 2023, j'ai vu que la SNCF sera mise en concurrence avec d'autres opérateurs pour l'Île-de-France. L'Île-de-France, c'est 1700 km de ligne. C'est le plus gros contrat de la SNCF avec 3,4 millions de voyageurs par jour. Si la SNCF perd ce contrat, je ne sais pas si c'est possible, mais si la SNCF perd ce contrat, c'est une épine dans le pied, grosse épine dans le pied.
Oui, elle ne le perdra pas globalement parce qu'on fera ce qu'on appelle un allotissement, c'est-à-dire ligne par ligne. Donc, ça ne sera pas global. Mais simplement, sur cette question de concurrence, là aussi, il faut relever l'absence de ligne de conduite claire. D'ailleurs, il y a deux ans, c'est pas si vieux, le gouvernement dit il faut abandonner le statut cheminot parce qu'il va y avoir la concurrence. Et aujourd'hui, le gouvernement freine des cas de fer sur la concurrence parce qu'il a peur que la SNCF y perde beaucoup de plumes. Donc, il n'y a pas vraiment de cohérence. Alors, les régions, elles, ont entendu qu'elles ouvraient à la concurrence, tout simplement parce qu'elles considèrent que le service n'est pas assez bon et que les coûts sont trop élevés. Donc, elles y vont, la région sud, Grand Est.
Parce que la concurrence, c'est forcément mieux pour le consommateur ?
Souvent, ce que les régions, on regarde ce qui se passe en Europe, souvent, ça se traduit par une baisse des prix initiale et puis un peu plus d'imagination dans le service, etc. Ça n'est pas un miracle.
On dit qu'en Grande-Bretagne, ça n'a pas marché du tout. Ça, c'est plutôt...
Mais ce n'est pas le modèle européen.
Pour d'autres raisons aussi liées à l'infrastructure, etc. Mais simplement, ce n'est pas miraculeux, la concurrence. Mais simplement, c'est fait pour obliger l'opérateur historique à se remettre un peu en cause.
Oui.
C'est ça un peu l'idée.
Et ça peut jouer sur les prix bas, tout cas au lancement.
Ça ne joue pas sur les prix. C'est-à-dire les prix que paye la collectivité, oui, mais pour l'usager, non, parce que la collectivité paye deux tiers du prix du billet du voyageur quotidien.
Marnik Dressen-Wagn, professeur émérite de sociologie, fin connaisseur de ces sujets du ferroviaire. Il y a un virage qu'a pris la SNCF depuis quelques temps, c'est les trains low cost, le fameux Ouigo. Alors là, les tarifs sont hyper concurrentiels, il faut accepter d'aller dans des gares qui sont des gares plutôt périphériques, qui ne sont
toujours.
Pas forcément les...
Ouais. Des gares parisiennes maintenant aussi.
En tout cas, c'était le cas au début. C'est vrai que ça a un peu évolué. Mmh. Est-ce que ça, c'est un modèle à suivre pour la SNCF ?
Écoutez, en fait, c'est tout à fait dans la logique de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que la SNCF segmente sa clientèle, donc il y a les trains Ouigo qui sont pour les jeunes, pour les étudiants, pour les faibles revenus. C'est pas toujours si bon marché que ça, le Ouigo. Si vous anticipez, comme pour un TGV ordinaire, si vous anticipez, vous pouvez effectivement avoir des tarifs assez bas, mais si vous faites une réservation au dernier moment, c'est pas du tout aussi avantageux que ce qui est dit. Il a même été calculé que dans certains cas, les TGV ordinaires, si vous anticipez la réservation, vous voyagez à meilleur marché qu'avec certains Ouigo. Et surtout, ce qu'il faut remarquer, c'est que le Ouigo, c'est une dégradation du service.
Oui.
Vous avez moins de place pour vous asseoir, vous n'avez pas de voiture bar, vous avez... Vous faites facturer les bagages supplémentaires.
C'est le Ryanair du chemin de fer. Hein.
La prise électrique, c'est le Ryanair
pas
du...
Pas tout à fait quand même. Hein. C'est plutôt le EasyJet du chemin de fer.
EasyJet.
oui, enfin...
Je peux vous poser une question que se posent peut-être les gens qui nous écoutent, qui est forcément une question un peu polémique, mais je mets les pieds dans le plat. Faut-il revoir aussi la masse salariale de la SNCF et le statut des cheminots? Alors pour le statut, c'est déjà en route, hein, puisque 125 000... cheminots sont au statut, 15 000 sont contractuels, mais depuis le 1er janvier dernier, les embauches ne se font plus avec les acquis du statut. Je vous pose la question parce que c'est vrai que c'est un sujet de débat politique.
C'est un sujet très passionnel. Il suffit de lire la presse en ligne, de voir le courrier des lecteurs pour voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne vivent que pour détruire le statut du cheminot.
Mais c'est une réalité ou un fantasme? Est-ce que ça pénalise la compétitivité?
C'est un arbre qui cache la forêt. C'est un non-sujet par rapport à l'endettement de la SNCF. Je voulais réagir tout à l'heure. Je pourrais argumenter.
Non, allez-y. Terminé.
La masse salariale des cheminots, les salaires d'embauche de la SNCF, ils sont extrêmement bas. Bas. Et on parle toujours des salaires des conducteurs de TGV, mais les conducteurs de TGV, c'est l'aristocratie de la SNCF. Et encore, ils le font parce qu'ils font des longues distances, ils ont des primes, c'est des postes qui sont de fin de carrière, etc. Mais ils ne sont absolument pas représentatifs. Les conducteurs de la SNCF ne représentent que 10% des cheminots de la SNCF. Donc on nous parle de ces gens-là.
Mais c'est vrai qu'ils font beaucoup de bruit parce que quand ils ne veulent pas démarrer, ben, ça se voit un peu plus que quand...
Ils ont un pouvoir de blocage... qui est très important.
Je pense que le sujet, ce n'est pas la masse salariale. Tout le monde sait que les gens de la SNCF ne sont pas particulièrement bien payés. Il y a de plus en plus de turnover, d'ailleurs, de gens qui démissionnent de la SNCF.
Ils n'arrivent même pas à recruter la SNCF.
Par contre, le sujet, c'est la productivité des ressources, donc des gens, du matériel roulant, etc. C'est-à-dire que payer un conducteur X euros par mois, c'est une chose, mais combien d'heures on arrive à l'occuper par jour pour conduire un train? Donc c'est une question d'organisation industrielle pour faire conduire un conducteur le plus longtemps possible dans la journée, pour faire rouler une rame le plus longtemps possible dans la journée. Il faut changer les modèles de production. C'est l'idée de Ouigo d'ailleurs. Hein. Ouigo, c'est on fait la maintenance la nuit et toute la journée, on fait circuler des rames. Moi, ça me semble bien pour attirer un maximum de voyageurs.
Gilles Dansard ?
Si l'abandon du statut avait été la solution, on le saurait déjà. Ouais. En fait, les cheminots étaient attachés à leur statut parce que on entre à SNCF et on en sort au moment de la retraite, la plupart du temps. Donc, ils considèrent que le statut...
C'est le deal de départ.
Et il y a aujourd'hui assez peu de professions où on entre comme ça en SNCF comme on entre en religion. Et donc, ça n'est pas la solution de l'abandon du statut a plutôt touché à une sorte de croyance collective des cheminots envers la SNCF plutôt qu'améliorer les comptes de l'entreprise.
Vous reviendrez dans quelques mois pour continuer d'en parler avec moi, parce que moi j'adore le sujet de la SNCF et du ferroviaire, je trouve que c'est absolument passionnant et on a eu le temps d'en parler, mais il y aurait encore plein de choses à dire. Merci en tout cas à tous les trois de m'avoir accompagné pour animer ce club des idées. 19h48, on se retrouve dans quelques secondes avec les archives d'Europe Soir, quand l'Arménie était frappée par un terrible séisme. C'était en 88, on en parle dans quelques secondes, à tout de suite.